RFI 19h, ici à Paris 17h en temps universel.
Grégoire Morelli.
Washington assure que ces bombardements ont dévasté le programme nucléaire iranien et propose désormais à la République islamique de négocier sur la question du nucléaire civil. Nous serons en direct avec notre correspondant à Washington dès le début de ce journal. Ces frappes américaines en Iran sont intervenues alors que Donald Trump avait dit se donner 2 semaines pour prendre une décision. La question d'une intervention a divisé au sein même du camp républicain, vous l'entendrez. Et cette guerre a aussi mis en exergue l'absence d'investissement dans la défense en Iran. L'ancien officier Guillaume Ancel nous dira que c'est en partie à cause de cela que le nombre de tués est plus important en Iran. Enfin, l'actualité, c'est aussi cette conférence de presse de Sergueï Tikhanovski en Lituanie. Aujourd'hui, l'opposant en Biélorusse qui a été libéré hier s'est exprimé aux côtés de sa compagne Svetlana Tikhanovskaya, à la tête de l'opposition biélorusse et réfugiée à Vilnius depuis 2020. Après les frappes américaines sur l'Iran, la République islamique brandit la menace d'une fermeture du détroit d'Ormuz, un lieu stratégique où transite près de 20% du pétrole mondial. Washington a exhorté la Chine d'intervenir auprès de l'Iran pour l'en dissuader. Washington, qui s'est également dit prêt à discuter avec l'Iran de son programme nucléaire civil. Nous sommes en ligne avec Pierre-Olivier. Bonjour.
Bonjour Grégoire.
À Washington pour RFI, et c'est le secrétaire d'État Marco Rubio qui a fait cette proposition à l'Iran.
Oui, l'offre est là, nous sommes prêts à leur parler dès demain. Message on ne peut plus clair du chef de la diplomatie américaine sur Fox News cet après-midi, qui rappelle que si l'Iran veut l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, il y a un moyen de le faire, la diplomatie. La porte des négociations plus que jamais ouverte donc ce dimanche côté américain. Marco Rubio, pour qui le monde est aujourd'hui plus sûr et plus stable qu'il y a 24 heures. Le vice-président s'est aussi exprimé et semble sur la même longueur d'onde. J.D. Vance a déclaré que les États-Unis n'étaient pas en guerre contre l'Iran, mais contre son programme nucléaire, et voit ces frappes comme une opportunité pour recommencer à zéro les relations avec l'Iran en reprenant le dialogue. Reste que malgré ces appels du pied post-bombardement, l'Iran, de son côté, n'entend pas pour l'instant arrêter son programme nucléaire. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Téhéran a déclaré que l'Iran était résolument déterminé à défendre sa souveraineté et sa population par tous les moyens nécessaire, une position qui ferait craindre à certains la possibilité d'une guerre qui s'inscrirait dans la durée.
Pierre-Olivier, à Washington pour RFI, merci à vous pour toutes ces précisions et j'ajoute que selon un conseiller de Khamenei, l'uranium enrichi reste intact malgré les frappes américaines et que, je cite, la partie n'est pas terminée même si les sites nucléaires ont été détruits. Je vous le disais, ces frappes américaines en Iran sont intervenues alors que Donald Trump avait dit se laisser 2 semaines avant de prendre une quelconque décision. La question avait pas mal divisé jusque dans le camp du président américain où certains craignaient de voir les États-Unis empêtrés dans une guerre sans fin. Et aujourd'hui, cette question, elle continue de diviser Lubna Anaki.
Dès le message de Donald Trump annonçant des frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens, les alliés habituels du président ont fait bloc derrière lui. Le sénateur Lindsey Graham, qui avait appelé Donald Trump à, je cite, finir le job, a été l'un des premiers à féliciter le président pour sa décision de donner le feu vert. Les chefs de la majorité républicaine à la Chambre et au Sénat, qui ont été briefés juste avant les frappes américaines, ont tous les deux dit apporter leur soutien au président. Décision courageuse, décision forte, opération chirurgicale, reprennent d'autres élus républicains. Mais au sein du parti présidentiel, tout le monde n'est pas content. Les élus les plus conservateurs, qui avaient déjà exprimé leur opposition à une intervention américaine, ont vivement critiqué la décision de Donald Trump. « Ce n'est pas notre guerre », a écrit Marjorie Taylor Greene. « C'est anticonstitutionnel », ajoute Thomas Massie, qui avait proposé un texte pour exiger l'accord du Congrès avant toute intervention militaire contre l'Iran. Côté démocrate, les élus condamnent en grande majorité les frappes américaines, estimant que Donald Trump met ainsi en danger les vies des Américains dans le monde. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et face à la montée des tensions, la population iranienne vit dans la panique. L'offensive lancée par Israël a fait des centaines de morts. Il est difficile d'ailleurs d'en connaître le nombre exact. Pour Guillaume Ancel, ancien officier français, les bombardements israéliens et américains ont mis en évidence l'absence d'investissement dans la défense de son territoire.
Il leur reste 2 possibilités, soit des tirs de missiles. On voit bien depuis 9 jours que l'opération a commencé, que pour l'instant leurs tirs missiles sont loin d'être impressionnants et font peu dégâts. À ce stade, les Israéliens croisent les doigts ou qu'il n'ait pas la possibilité de tirer en même temps 200 ou 300 missiles qui satureraient totalement le dôme de fer. L'autre possibilité qui reste réellement aux Iraniens, c'est de commettre des attentats partout où il y a des intérêts israéliens ou américains. Les bases, les monuments civils, les synagogues sont malheureusement difficiles à protéger et les Iraniens vont probablement être tentés d'utiliser des organisations terroristes qu'elles ont abondamment financées ces dernières années pour les obliger à pousser des attentats à droite ou à gauche. Les militaires américains étaient d'ailleurs assez réticents à ces frappes pour cette raison, parce que les Américains ont beaucoup de bases dispersées dans cette région et ils craignent les représailles qui sont beaucoup plus difficiles à prévenir en réalité qu'un tir de missile.
Guillaume Ancel, ancien officier français, il répondait aux questions d'Olivier Sherman. Israël qui a la chance de jouir d'une meilleure protection face aux frappes iraniennes. Seulement 24 morts, seulement 24 morts sont à déplorer depuis le 13 juin. Et à Jérusalem, même si la ville vit au ralenti, les habitants ne cèdent pas à la panique. Entre soutien aux États-Unis et inquiétude, les avis restent toutefois divisés. Alice Moreno.
La scène semble surréaliste. Dans Jérusalem quasi déserte, une jeune femme pose en robe de mariée. Sa mère l'accompagne, maquillée et habillée pour la cérémonie qui se déroulera ce soir.
Nous sommes orthodoxes et donc on ne décale pas un mariage qui était prévu. On essaye de tout faire plus tôt à cause de l'état d'urgence. C'est un jour très spécial, plein d'émotions pour moi, même si c'est la guerre ici et que ça fait peur.
Un jeune homme franco-israélien affiche quant à lui très clairement son soutien à l'entrée en guerre des États-Unis.
Enfin, je pense que c'est pour la bonne cause, quoi. Ils sont avec nous, donc ils vont nous aider et ils vont combattre avec nous. Même s'il y a tout le monde entier contre nous, on gagnera.
L'accès à la vieille ville est fermé aux visiteurs. Porte de Damas, un Palestinien de Jérusalem-Est ne cache pas son inquiétude.
Aujourd'hui, on revient à une situation similaire au premier jour de guerre. Les gens ont peur de descendre dans la rue, dans les commerces. La région est en proie à la violence et la violence va s'intensifier. Cette situation n'est dans l'intérêt de personne.
Il regrette l'entrée en guerre des États-Unis et déplore le volte-face de Donald Trump dans le dossier du nucléaire iranien. Alice Moreno, Jérusalem, RFI.
Sachez enfin que les États-Unis ont ordonné l'évacuation des membres non essentiels du personnel de leur ambassade au Liban, ainsi que de leur famille. Un communiqué de la chancellerie américaine à Beyrouth avance un climat volatile et imprévisible dans la région pour justifier sa décision.
Salut, voilà quoi je ressemble. Je me suis pesée ce matin, 79 kilos.
Radio France Internationale.
En Ukraine, 4 personnes ont été tuées par des tirs de l'armée russe à Kramatorsk dans l'oblast de Donetsk et un cinquième pourrait encore se trouver dans les décombres d'un immeuble touché, selon un nouveau bilan communiqué par les services de secours ukrainiens. Kiev, qui compte d'ailleurs intensifier ses frappes contre des cibles militaires en profondeur dans le territoire russe, c'est ce qu'a déclaré le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandr Sirski, qui a par ailleurs reconnu que la Russie avait certains avantages dans la guerre, notamment via les drones. On reste sur le vieux continent où l'opposant biélorusse Sergueï Tikhanovski a été libéré hier après la visite d'un émissaire américain à Minsk. Il a été libéré avec 13 autres personnes et il a donné aujourd'hui sa première conférence de presse à Vilnius aux côtés de son épouse Svetlana Tikhanovskaya, à la tête de l'opposition biélorusse et réfugiée à Vilnius depuis 2020. La correspondance de Marielle Vitureau depuis Vilnius.
Salut, voilà quoi je ressemble. Je me suis pesée ce matin, 79 kilos. C'est comme ça que Sergueï Tikhanovski a commencé sa conférence de presse. Puis il s'est lancé dans une longue liste de remerciements, notamment à Donald Trump.
Le président Donald Trump a un tel pouvoir, il lui suffirait d'un mot pour faire libérer tous les prisonniers biélorusses.
À quelques reprises, l'homme de 46 ans au visage émacié fond en larmes, notamment quand il évoque sa fille qui ne le reconnaît pas tout de suite, ses conditions de détention, 3 ans d'isolement complet et la répression à l'égard des autres prisonniers politiques. Sa libération est arrivée de manière inattendue.
Un mois avant ma libération, on a commencé à mieux me nourrir, du beurre, du fromage, du jus ou du lait par exemple.
Puis, il a été emmené avec un sac sur la tête dans des locaux du KGB et a été remis aux diplomates américains. En 2020, Sergueï Tikhanovski était à la pointe de l'opposition à Alexandre Loukachenko. Il poursuivra la lutte.
Cependant, Svetlana Tikhanovskaya reste le leader de l'opposition. J'ai eu très peu d'informations pendant ma détention et je me sens comme dans un monde parallèle.
Le plus important reste...
C'est la fin de cette édition, 19h10, ici à Paris. Très bonne suite des programmes sur RFI.